Merci bien. Je veux, dans une courte phrase, remercier les organisateurs, les personnes qui m'accueillent, monsieur le doyen, chers amis, chers collègues, mesdames, messieurs. Je pense en effet que le programme que vous avez préparé est très intéressant. Le dynamisme de votre ville est connu aussi bien en matière hospitalière qu'en matière universitaire depuis des siècles. Et je pense aussi, sans démagogie aucune, que si certains Français sont susceptibles de faire aboutir la formation médicale continue et l'évaluation des pratiques, c'est ici. Donc, bonne chance. Mes premières diapositives, je vais aller très vite, parce que c'est plus un rappel. On entend généralement sous le terme de personnalité ce qu'il y a de relativement permanent et stable dans un fonctionnement psychologique. Les origines du mot ont été rappelées beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire il y a quelques minutes. Il y a énormément de définitions de la personnalité. La définition retenue par mes maîtres Jean Delay et Pierre Pichot a l'avantage pour moi de mettre l'accent sur l'aspect intégratif des différentes composantes de la personne, organisation dynamique des aspects cognitifs, c'est-à-dire intellectuels, affectifs, conatifs, c'est-à-dire pulsionnels et volitionnels, physiologiques et morphologiques de l'individu. Et il est possible d'étudier les différentes composantes de la personnalité selon trois points de vue: la structure, l'aspect dynamique ou l'aspect du développement, c'est-à-dire l'aspect génétique. Et c'est l'influence respective de ces facteurs, c'est-à-dire l'importance relative accordée à la maturation et à l'environnement, qui est toujours discutée de nos jours. Vous savez qu'on oppose les théories constitutionnalistes aux théories culturalistes, et que des gens sont prêts à se déchirer pour ça. Le problème, d'un point de vue scientifique, c'est que cette approche scientifique de la personnalité, elle se heurte à l'absence complète de paradigme commun entre les différentes théories et l'absence de méthodologie assurée à appliquer pour l'étude de la personnalité. Ce qui a fait dire à certains que c'était impossible d'étudier la personnalité. La personnalité, ce terme n'est employé dans son sens actuel que depuis le 19e siècle. Le fondateur de la psychologie française, c'est Théodule Ribot, 1885. Lui, il pensait qu'il pouvait y avoir des maladies de la personnalité. Il a écrit un livre cette année-là avec ce titre. Il y a plusieurs termes voisins qu'il faut un peu positionner parce que on en parle encore aujourd'hui à côté du mot personnalité et c'est pas toujours très clair. Alors, le plus vieux terme, c'est le tempérament, la doctrine des tempéraments avec Hippocrate et doctrine qui a été complétée par Galien. Je vous rappelle très rapidement ce que c'est. Il y a dans l'organisme quatre fluides qui sont normalement en équilibre. Et s'il y a excès d'un fluide, il y a prédisposition à développer une maladie. Et ajouteront certains prédisposition à développer un tempérament particulier et au maximum une maladie. La notion d'habitus est très voisine du tempérament. Et je reviendrai parce qu'il y a dans la psychobiologie moderne, un retour de la doctrine des tempéraments. Le mot de caractère est un mot dangereux parce qu'il a des sens très différents en littérature, en psychologie, en médecine et au sein de la psychologie. Il a des sens différents selon justement les théories de la personnalité auxquelles on se réfère. Donc c'est un mot dangereux. Les troubles de la personnalité maintenant, le concept a des origines médicales d'abord et psychologiques ensuite. J'ai fait une erreur sur cette diapositive parce que j'ai écrit source française alors que je voulais écrire source française et anglaise, le Pritchard n'étant absolument pas français. Au point de vue historique, les troubles de la personnalité, les pères des troubles de la personnalité sont français, anglais et allemand. Chez les aliénistes du XIXe siècle, il y a ce que deviendront les troubles de la personnalité. Par exemple, Pinel, quand il décrit la manie sans délire, il décrit dans le comportement de certains patients la fureur instinctuelle, qu'on n'appellerait pas comme ça aujourd'hui, mais qui représente un trouble du comportement susceptible de survenir sans pathologie mentale majeure. Dans les monomanies d'Esquirol, particulièrement dans la monomanie résonante, les patients ont des préoccupations prédominantes qui nous font penser à la personnalité de type paranoïaque. C'est en Angleterre qu'on a décrit les troubles du comportement de la morale insanity qui, un siècle plus tard, avec le livre de Keckley, deviendra dans le Mask of Sanity, la personnalité psychopathique antisociale. Et puis, je ne veux pas être trop long sur ce sujet, mais les types pathologiques isolés par Morel, chez les dégénérés de Magnan, dégénéré de la sensibilité ou de la volonté, il y a des descriptions d'égoïstes pathologiques, d'obsédés, d'altruistes, d'hypochondriaques, de passionnels, d'impulsifs. Vous voyez à travers ces termes qu'on va arriver à nos classifications connues. Idem chez Dupré, puisque dans une optique très constitutionnaliste, il a décrit des constitutions émotives, des perversions instinctives, des constitutions paranoïaques ou constitutions mythomaniaques. Les sources allemandes sont extrêmement importantes. Dans la même tranche de temps, vous voyez, fin du XIXe siècle, Koch a écrit un livre, Les infériorités psychopathiques. Ce monsieur dirigeait un asile d'aliénés en Allemagne. Le Kraepelin de la fin du siècle, mais vous savez qu'il y a de nombreuses éditions de son livre. Dans la première, il parlait d'état psychopathologique et de personnalité psychopathologique dans l'édition de 1904. Et enfin, et c'est la personne qui est la plus importante pour la création du concept de trouble de la personnalité, c'est Kurt Schneider, 1923, professeur de psychiatrie à Heidelberg et qui a défini de façon très claire les troubles de la personnalité, déviation purement quantitative d'une personnalité normale. Donc les psychopathes sont une forme particulière de personnalité anormale. C'est tel que leur caractère anormal les fait pâtir ou fait pâtir la société. Nous n'avons pas fait mieux que Kurt Schneider pour définir les troubles de la personnalité. Et ce qui est particulier chez Kurt Schneider et qui est parfois un peu oublié, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de systématique dans la description, il n'y a pas de théorie derrière. Il a, d'ailleurs, j'ai dit les 10 personnalités de Kurt Schneider. En fait, le chapitre où il décrit les troubles s'appelle « Cas particulier ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de description systématique, il n'y a pas de théorie derrière. Il dit qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des attitudes et des comportements tels qu'ils pâtissent de ces comportements, ou alors ils font pâtir les autres ou les deux à la fois, et il a choisi de décrire les psychopathes qui lui paraissent les plus fréquemment rencontrés en clinique. Il y a des pages très très belles dans Kurt Schneider sur l'incertitude dans laquelle il est par rapport au fait de penser que ce sont des maladies ou pas. Il dit, nous ne sommes pas du tout sûrs que ce sont des maladies. Mais ce sont des personnes qu'on rencontre et qui ont à voir avec la médecine, la psychiatrie et dont il faut s'occuper. Et depuis Kurt Schneider, les psychiatres n'ont pas cessé d'individualiser dans les classifications des troubles mentaux des troubles de la personnalité qui certes sont variables selon les classifications, mais dont l'individualisation leur paraît justifiée, soit parce qu'ils représentent des personnalités prémorbides de patients atteints par ailleurs de divers troubles mentaux, soit parce que les conséquences de leurs caractéristiques psychologiques relèvent de soins médicaux, soit encore parce que leur existence complique les traitements ou aggrave les tableaux cliniques. Voilà la raison pour laquelle il est justifié de parler de troubles de la personnalité dans un livre de psychopathologie ou de psychiatrie, même si nous ne sommes pas du tout assurés qu'il s'agit bien de maladies. Fréquemment, ces troubles ont été isolés à partir de ressemblances avec les différents troubles mentaux, et selon les auteurs et les époques, ils ont pu être considérés soit comme le terrain sur lequel pouvaient se développer les troubles mentaux, soit comme des formes mineures de ces troubles. Et nous en sommes toujours là. Nous en sommes toujours là. Les deux classifications internationales des troubles mentaux isolent un chapitre troubles de la personnalité. La définition des troubles de la personnalité dans la classification américaine est très proche de celle qui est aussi décrite dans la CIM-10, qui a été préparée en 91, publiée en 92, 93 pour la version française, 94 pour les critères diagnostiques. Le DSM-4, lui, remontant à 1994. Donc voilà la définition des troubles de la personnalité dans le DSM-4, et voici la définition des troubles de la personnalité dans la CIM-10. Ce sont, encore une fois, deux définitions très proches l'une de l'autre, et bien que les auteurs américains ne le disent pas, très proches de la définition et des conceptions de Kurt Schneider. Alors, je vais vous faire un peu de clinique en vous montrant quelques diapositives des principaux types de troubles individualisés dans ces deux classifications qui sont compatibles l'une avec l'autre avec trois exceptions près. Et puis, j'ai écrit à côté du terme de personnalité la caractéristique principale ou les caractéristiques principales qui permettent de les décrire et de distinguer un trouble des autres troubles. Vous voyez, on appelle les critères diagnostiques maintenant, qui sont des manifestations cliniques les plus évocatrices d'un diagnostic et de ce diagnostic seulement. Alors, voici par exemple les conceptions dans les deux classifications de deux premiers troubles de la personnalité. 3 pour le DSM-4. Alors je vais m'arrêter une minute sur la personnalité paranoïaque, parce que la personnalité paranoïaque, l'histoire de la personnalité paranoïaque résume l'histoire des troubles de la personnalité. Il y avait une seule personnalité paranoïaque chez Kraepelin. Il y avait une seule personnalité paranoïaque en France, les créateurs de la personnalité paranoïaque en tant que tel, c'est Dupré, le même que tout à l'heure, 1912, est complété par des gens moins connus aujourd'hui qui sont Montassu et Génil Perrin. Et le concept de personnalité paranoïaque a évolué différemment en Allemagne avec Kraepelin qui décrivait les quérulents, et il faisait un diagnostic différentiel avec les pseudo-quérulents, et surtout avec Kretschmer, qui, lui, a décrit trois types de personnalités paranoïaques. Les personnalités de combat, les personnalités de souhait et les personnalités sensitives. On parle encore un petit peu aujourd'hui de personnalité sensitive. On a un peu oublié la conception kretschmerienne de des personnalités paranoïaques. La première variété était proche de la personnalité quérulente de Kreprin, avec des individus agressifs et procéduriers. La personnalité dite de souhait ou personnalité fanatique correspond aux idéalistes passionnés. Et vous savez que ces personnes ne se battent pas pour une thèse personnelle, contrairement au premier, mais ils se battent pour des idées, des théories. Et enfin, la personnalité sensitive correspond à des personnes qui sont très impressionnées par l'expérience vécue, qu'ils vivent les expériences vécues le plus souvent sur un mode douloureux, parfois dépressif, avec une intériorisation importante de la vie affective. Donc, il y a eu toute une période où il y avait des personnalités paranoïaques, particulièrement en Allemagne. Et puis, au début du développement de la théorie psychanalytique, il y a eu un retour à une conception unitaire de la personnalité paranoïaque, et vous savez que selon la théorie psychanalytique, la personnalité paranoïaque se fonde sur une homosexualité latente et sur l'utilisation privilégiée d'une défense du moi, la projection, particulièrement, l'utilisation particulièrement importante d'une défense, la projection, et en termes de fixation-régression, une fixation-régression au premier sous-stade anal, c'est ce qui fait de la personnalité paranoïaque la moins régressive des structures psychotiques. Première différence entre nos deux fameuses classifications, là, vous voyez qu'il y a une personnalité schizotypique individualisée par les Américains et qu'il n'y a pas l'équivalent. En effet, les auteurs de la classification de l'OMS pensent que le trouble schizotypique n'est pas un trouble de la personnalité. Et ce trouble-là est bien identifié dans la CIM-10, mais pas dans le chapitre « Trouble de la personnalité ». On considère qu'il s'agit d'un trouble qui correspond à une forme mineure de schizophrénie, plus qu'à autre chose. En revanche, il y a une très grande similitude dans les deux classifications pour la personnalité dissociale et antisociale. À nouveau, une différence de point de vue entre les deux classifications pour la personnalité borderline. Les Américains individualisent en tant que telle une personnalité borderline. Dans le DSM-4, la conception de la personnalité borderline a été extrêmement influencée par Otto Kernberg, un psychanalyste, bien que les Américains disent que c'est pas le DSM n'est absolument pas théorique, mais c'est un peu faux. La conception de Kernberg a prévalu pour la description de la personnalité borderline. Et il y a une originalité, là, dans la conception de l'OMS pour les personnalités équivalentes. En fait, il y a une personnalité émotionnellement labile dans laquelle on trouve un type impulsif, donc où il y a une pathologie des actions, des comportements, et une autre variété qui est le type borderline, dans lequel il y a, en plus de l'impulsivité, de la stabilité, des relations, un trouble de l'identité qui est fait de vide, etc., etc. Donc vous voyez là, il y a une différence importante entre les deux. Les personnalités borderline sont obligatoirement impulsives et le noyau fondamental est différent dans ces deux cas de figure, alors que les Américains en font une seule variété de troubles de la personnalité. Dans les deux classifications, il est recommandé de ne plus utiliser le terme de personnalité hystérique, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'apesantir dans le cadre de cet exposé relativement rapide, mais il est conseillé de parler de personnalité histrionique. Et la description est très voisine dans les deux cas. Troisième et dernière différence importante entre les deux classifications, c'est à propos de la personnalité narcissique qui est isolée dans la classification américaine et qui n'est pas isolée dans la classification européenne. En revanche, il y a une très grande proximité de point de vue entre les personnalités évitantes dans les deux cas, dans les personnalités dépendantes et dans la personnalité obsessionnelle ou anancastique, même si les termes sont différents, le contenu est le même. À propos de la personnalité obsessionnelle, je pourrais dire des choses similaires à ce que j'ai dit à propos de la personnalité paranoïaque. Il y a eu, dans les origines, la personnalité psychasthénique de Pierre Janet, la personnalité obsessionnelle en tant que telle, et puis le caractère anal qui a été décrit par les psychanalystes, économie, ordre, entêtement, la triade qui repose sur fixation, régression et formation réactionnelle comme mécanisme de défense privilégié. Et puis à nouveau, donc il y a des gens qui ont décrit trois types de personnalités obsessionnelles, et puis on est revenu à une conception unitaire, puisque vous voyez que dans cette classification-là, il n'y a plus qu'un seul type de trouble se référant à cette dimension. Alors, j'en arrive, mais très rapidement, à dire quelques mots sur les théories, mais très rapidement, vraiment. Plusieurs psychanalystes ont décrit des troubles de la personnalité en utilisant beaucoup le terme de caractère. J'en ai déjà cité quelques-uns. Pour me limiter aux personnalités actuelles, il y a Otto Kernberg qui est toujours aussi dynamique dans les travaux sur la personnalité borderline. John Gunderson est l'Américain mondialement connu pour ses travaux sur la personnalité borderline. Et Glenn Gabbard est un psychanalyste complètement exceptionnel parce que c'est un psychanalyste qui accepte de discuter avec des comportementalistes et qui ne s'oppose pas à l'évaluation des résultats des psychothérapies analytiques. Et en ça... ils sont pas très nombreux comme ça. En ce qui concerne les théories néo-behavioristes, je vous rappelle que le créateur, c'est Watson. Sur le cognitivisme, le début du cognitivisme, c'est dans les années 1950. Un grand théoricien du cognitivisme, c'est Kelly. J'ai mis à côté le nom de Michel Hutto, qui n'est pas... qui est le seul auteur qui a fait en langue française en 1983 un livre sur les théories cognitives de la personnalité édité aux presses universitaires de France. Alors, les dernières diapositives concernent les approches purement psychologiques ou psychobiologique des troubles de la personnalité. Là, je vais vous parler quelques minutes du modèle des traits de personnalité et je terminerai sur quelques typologies où je n'aurai pas le temps de revenir sur Kretschmer, Sheldon ou Gray, mais je me limiterai à Cloninger, puisque sa description psychobiologique de la personnalité et de ses troubles est très actuelle et importante dans la littérature américaine. Alors, les modèles de traits, la psychologie des traits de personnalité repose sur l'idée qu'on peut décrire les caractéristiques d'un fonctionnement habituel d'un individu à l'aide de qualificatifs descriptifs suffisamment nombreux, variés, etc. Donc, dans cette approche descriptive des traits de personnalité, on a compté jusqu'à presque 18 000 termes qui pouvaient décrire le fonctionnement de quelqu'un. Alors, ces termes ne sont pas indépendants les uns des autres, ils sont plus ou moins similaires, plus ou moins redondants, et... dans cette approche descriptive lexicale de la personnalité, la situation a complètement changé à partir du moment où on a pu faire des travaux mathématiques sur le calcul des intercorrélations entre variables. À ce moment-là, l'analyse factorielle, début du siècle, analyse multivariée, multifactorielle, après, et à ce moment-là, avec les ordinateurs actuels, on a pu limiter, non pas étudier la personnalité dans 18 000 dimensions, mais restreindre le nombre de dimensions grâce à ces analyses des intercorrélations. Et à ce moment-là, on a retrouvé un nombre limité de facteurs ou de dimensions principales. Et dont on dit, ben voilà, la personnalité, on peut réduire sa description en se contentant de décrire ses facteurs mathématiques. Et puis, on fait cette opération qui est purement mathématique, puis après, on regarde de quoi sont constitués les facteurs. Et si d'aventure, on trouve des choses qui, sur le plan clinique, nous disent quelque chose, paraissent avoir un sens clinique, alors on est content. Et là, ce sont surtout des psychologues qui ont fait cette approche et développé ça. Heisink a décrit 3 dimensions fondamentales de la personnalité, Cattell 16 dimensions de la personnalité, et puis le modèle qui actuellement est le plus populaire vient des États-Unis, Costa et McCrae, qui ont décrit le modèle des 5 facteurs. Modèle purement psychologique. Il me reste 2 minutes. Je termine, c'est mes 2 dernières diapositives, je termine sur une description très très brève de ce modèle dit des Big Five, et la dernière diapositive concernera la description de l'américain Cloninger, qui lui est un modèle original et en 7 dimensions, et qui n'est pas purement psychologique, loin de là, mais qui est psychobiologique et qui est le retour de la doctrine des tempéraments. Alors, pour ce qui est du modèle des Big Five, ces psychologues ont décrit donc 5 dimensions fondamentales de la personnalité, chacun constitué de 6 facettes cliniques différentes. Névrosisme, extraversion, ouverture, agréabilité et caractère consciencieux. Dans le névrosisme, synonyme de névrosisme, c'est l'instabilité émotionnelle. Et c'est un trait bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont très instables sur le plan émotionnel et d'autres individus qui, en revanche, ont une stabilité émotionnelle parfois extrême. De quoi est constituée l'instabilité émotionnelle, ou névrosisme, neuroticisme en anglais? Elle est constituée d'angoisse, de caractère direct de la personne, de tendance dépressive, de conscience de soi élevée, d'impulsivité et de vulnérabilité. Deuxième dimension, l'extraversion, l'ouverture, l'agréabilité et les caractères consciencieux, ce sont les 4 autres dimensions principales. Encore une fois, chacune de ces dimensions avec 6 facettes différentes, donc vous pouvez décrire, alors il y a un questionnaire, enfin il y en a même plusieurs, il y a un questionnaire qui explore la personnalité selon ce modèle et qui donne, si on fait bien les calculs, 30 notes différentes. La note dans les 5 dimensions, dans chacune des 6 facettes. Donc, on peut. Ce questionnaire s'appelle Néo-PI révisé. Il a été traduit, validé en français par le professeur Jean-Pierre Roland, qui est professeur de psychologie à l'Université Paris 10. Et ce qui est particulier avec ce modèle des Big Five, c'est que de très nombreuses études, mais des centaines, réalisées dans plein de pays dans le monde, ont trouvé à peu près partout ces mêmes 5 dimensions et même, à peu de choses près, ces mêmes facettes. Et donc, si vous voulez, ça donne ça une relative tranquillité sur la valeur de cette distinction-là et sur la stabilité de la structure factorielle par rapport à la personnalité humaine. Je dis bien des centaines d'études. Hein. Donc, ce modèle-là est solide sur le plan psychologique. La question est de savoir si il nous intéressera beaucoup en médecine, c'est-à-dire si son application dans le domaine des troubles de la personnalité a un intérêt. Alors, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui sont consacrés à la validité prédictive de ce système. Oui, si on a une note élevée dans telle dimension, on a plus de risques d'avoir telle pathologie. Et il y a un nombre croissant de travaux qui font correspondre les 30 dimensions de la personnalité selon le modèle des Big Five avec nos fameuses personnalités pathologiques décrites par nos psychiatres, les psychiatres. Vous voyez ? Et le dernier modèle dont je vous parlerai, c'est le modèle psychobiologique de Cloninger. Alors, Cloninger n'est pas un psychologue, c'est un psychiatre. Et il a décrit la personnalité de façon tout à fait originale, en disant qu'il y a deux aspects. Le tempérament qui correspond à la partie innée de la personnalité, génétiquement transmise, et le caractère qui correspond aux acquisitions, à l'environnement, etc. Il a postulé qu'il y avait 4 dimensions fondamentales dans le tempérament et qu'il y avait des relations entre ces dimensions-là et le fonctionnement monoaminergique. C'est ça qui est original dans la théorie de Cloninger. Donc, 4 dimensions de tempérament, la recherche de la nouveauté, novelty seeking en anglais, l'évitement du danger, harm avoidance, la dépendance à la récompense, reward dependence, et la persévérance. Selon Cloninger, la recherche de la nouveauté, cette dimension de personnalité, est réglée par le système dopaminergique. L'évitement du danger est régulé par les voies sérotoninergiques. La dépendance à la récompense est régulée par des voies adrénergiques. La persévérance est une caractéristique psychologique qui, dans sa description, n'est pas liée à un fonctionnement monoaminergique. Le caractère, lui, selon Cloninger, est constitué de 3 composantes acquises. La détermination, self-directedness, qui témoigne du degré de maturité individuelle, la coopération, qui évalue le degré de maturité sociale, et la transcendance, qui évalue la maturité spirituelle, pourrait-on dire. Une 7e dimension qui est moins bien clairement individualisée que les autres. L'hypothèse de Cloninger, c'est que le tempérament, donc, est bien génétiquement transmis. On a vérifié dans les études de jumeaux, etc., qu'il y avait bien des relations très étroites entre ces dimensions-là et chez les jumeaux, monozygotes beaucoup plus que dizygotes, etc., etc. Vous connaissez ces travaux. Et que dans les 3 dimensions de caractère, c'était là qu'on trouvait les personnes qui avaient des troubles de la personnalité. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité ont en commun, quel que soit le trouble, ont en commun des notes basses en détermination et en coopération. Cela dit, la détermination n'explore pas que la personnalité. Par exemple, les personnes qui ont un épisode dépressif, sans aucun trouble de la personnalité, eh bien, ils ont une note élevée en évitement du danger et très basse en détermination et parfois très basse en coopération. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans un domaine où il y a spécifiquement une dimension qui est perturbée quand il y a trouble de la personnalité. Un épisode dépressif peut entraîner des modifications de ce type-là. Mais le problème, c'est que quand on sort de l'épisode dépressif, l'évitement du danger rediminue, la coopération remonte et la détermination augmente. Et quand l'épisode dépressif touche quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, eh bien, on voit que L'évitement du danger ne guérit que partiellement, la détermination ne s'améliore que partiellement, la coopération reste basse. Donc même dans cette pathologie, vous voyez, dépressive avec trouble de personnalité, on peut faire la différence entre personnes qui ont un trouble de la personnalité et personnes qui n'en ont pas au sein de la pathologie dépressive. Alors, Cloninger est très populaire dans la littérature internationale et très populaire aux États-Unis. Sur le plan purement psychométrique, je dois vous dire que les publications les plus récentes sont très très loin d'être aussi jolies que les publications qui concernent le modèle des cinq facteurs. C'est-à-dire que la stabilité factorielle est discutable et il y a même des publications sérieuses qui n'arrivent pas à mettre en évidence clairement la différence entre les dimensions de tempérament et les dimensions de caractère. Ce qui m'amène à une phrase de conclusion, parce que historique et clinique des troubles de la personnalité, vous allez me dire, ben oui, mais l'histoire de demain, ça va être quoi ? C'est-à-dire que dans les prochaines classifications internationales qui sont attendues pour 2012-2013, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Est-ce qu'on va continuer le modèle catégoriel, médical, classique des classifications antérieures, ou est-ce qu'on va faire du nouveau ? Alors, il y a de plus en plus d'arguments pour penser qu'il va y avoir un système mixte, catégoriel et dimensionnel. En revanche, il y a toujours des discussions très importantes, dont je n'ai pas parlé parce que je ne pouvais pas parler de ça, sur quel est le meilleur modèle dimensionnel à préconiser. Je ne vous ai parlé que de deux exemples, 5 et 7, là. Il y a plus de 18 modèles dimensionnels différents qui sont défendus dans la littérature internationale. Pour n'en citer qu'un, il y a un Canadien qui s'appelle John Livesley, qui est le rédacteur en chef de la revue Journal of Personality Disorders, qui a lui-même créé un modèle dimensionnel à 18 dimensions, qui a des arguments pour dire que l'application en pathologie humaine est tout à fait intéressante et possible, et qui développe des arguments pour dire que ça serait bien d'utiliser son modèle plutôt que d'autres. Il est évident qu'en 2012-2013, il n'y aura pas d'arguments scientifiques déterminants pour dire un modèle dimensionnel est meilleur que tous les autres dans toutes les applications. Ça, il ne faut pas rêver. Et donc, ce qui est à attendre, et peut-être à craindre, mais ce qui est à attendre, c'est que le choix du modèle dimensionnel qui va être un petit peu privilégié dans le DSM-5 et dans la CIM-11, il est à craindre que ce choix ne se fasse pas purement sur des arguments scientifiques, mais aussi sur des arguments politiques, de lutte d'influence. Le climat en France entre les psychologues et les... Je m'arrête là. Le climat en France entre les psychologues et psychiatres n'est pas très mauvais. Enfin, ceux qui s'intéressent à ce type de sujet. Aux États-Unis, les relations sont épouvantables. Il y a des guerres, mais terribles, entre psychologues, psychométriciens, qui sont beaucoup plus compétents sur le plan des analyses statistiques, et puis les psychiatres. Mais les psychiatres sont eux-mêmes aussi divisés, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le point de vue de Cloninger. Bref, on verra bien ce qui se passera demain. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Guelfi, d'avoir campé le décor aussi clairement des troubles de la personnalité, et puis surtout en abordant ces perspectives qui sont effectivement extrêmement complexes. Mon rôle de chronométreur officiel est détestable, mais il permettra à la table ronde d'être encore plus riche et dense, et donc j'appelle immédiatement. Du coup, le programme a été modifié de façon très pertinente. Christophe André, qui va aborder la question des personnalités normales et pathologiques. Je ne présente pas Christophe André, psychiatre, écrivain, parisien, d'origine toulousaine.
D'origine montpelliéraine et fortement adaptée à Toulouse, et puis maintenant émigrée vers Paris. Je vais faire bref, j'ai bien écouté François Julien. Bonjour, merci. Et voici notre sujet, donc là, une petite réflexion en commun sur la notion de seuil en matière de normalité et de pathologie dans ce domaine des troubles de la personnalité, pour parler de manière plus concrète les différences entre les petits pénibles et les gros casse-pieds. Puisque cette question des troubles de personnalité, c'est quelque chose évidemment qui déborde largement le domaine des cabinets de psychiatrie, de psychanalyse, de psychothérapie. Évidemment, on est confronté quotidiennement à des comportements, des attitudes un peu surprenantes, un peu agressives ou offensantes parfois, qui font qu'au fond, tout le monde a un avis tout de même sur ce qu'est un casse-pied, à partir de quel moment on peut se trouver qualifié de la sorte. Voici le plan que nous allons suivre. Je ferai quelques petits bémols avec cette notion de personnalité, mais je vous rappellerai quand même que ça compte, que c'est utile, c'est un concept très opérationnel pour des cliniciens comme nous sommes tous ici. Et puis j'aborderai évidemment cette question qu'on m'a demandé de traiter, qui est la question du seuil. Donc concernant la notion de bémol avec des troubles de personnalité, un premier bémol, c'est que nous sommes d'assez mauvais observateurs de nos propres traits de personnalité, nous sommes d'assez mauvais connaisseurs de nos propres traits de personnalité. On a comme ça un très grand nombre d'études en psychologie sociale montrant que nous sommes prêts à gober à peu près n'importe quoi en matière de profil de personnalité nous concernant. Beaucoup de ces études ont été proposées, par exemple, dans le cadre de tentatives d'évaluation ou de compréhension du succès de l'astrologie auprès du grand public. Donc, si vous écrivez pour avoir des tests d'astrologie ou même de graphologie, c'est cruel pour les graphologues, mais ça marche un petit peu de la même façon, vous allez souvent obtenir des portraits psychologiques qui vous satisferont pleinement. Moi, j'ai fait ça parce qu'il faut le faire, évidemment, il ne suffit pas de dire, il faut faire. Et voici le portrait qu'on m'a renvoyé, dont je pense qu'il devrait concerner à peu près la plupart d'entre vous. Donc, il y a tout le blabla. Mon attention s'est trouvée immédiatement attirée par l'ensemble, et patati et patata. Vous craignez souvent de vous livrer, de montrer qui vous êtes. Vous appréhendez souvent le regard des autres. Je me demande chez quel être humain cette affirmation peut être fausse. Vous pouvez avoir souvent la crainte de ne pas réussir, là aussi. Dans votre personnalité, diverses dualités provoquent des désaccords intérieurs. Bon, levez le doigt à ceux qui n'ont pas eu des désaccords intérieurs avec eux-mêmes. En avançant dans mon étude, je découvre certaines difficultés. Tout d'abord, sur le plan psychologique, je relève l'existence de phénomènes contradictoires. Ben oui. qui peuvent révéler un conflit ancien. Ben oui aussi. En conséquence, un manque de confiance en vous qui interdit peut-être à vos potentialités de s'exprimer pleinement, ça peut générer une certaine maladresse ou une mauvaise aptitude à faire les meilleurs choix. C'est vrai, dans ma vie, je me demande toujours aujourd'hui si j'ai fait toujours les meilleurs choix. Ça continue comme ça, il y en a trois pages. Devant ce type d'écriture, c'était de la grapho, j'ai souvent quelques instants de réflexion car il y a tant de choses à dire. Votre personnalité est très intéressante. Votre comportement, voilà. Peut-être derrière tout ça, il y a un sentiment caché que vous avez du mal à analyser. Bref. Alors, je ne veux pas me dévoiler davantage. Ce qui est passionnant, c'est que lorsqu'on renvoie ce type de portrait à 100, 1000, 10 000 personnes qui ont sollicité un portrait astral gratuit et que vous leur dites « Est-ce que c'est vous ?» Est-ce que votre conjoint ou vous-même vous reconnaissez? Si oui, répondez-nous et envoyez-nous un chèque, vous aurez la suite. Vous avez des taux de satisfaction de 90%. C'est ça qu'on appelle l'effet Barnum. Donc, déjà, l'autoconnaissance en matière de personnalité pose beaucoup, beaucoup de problèmes. On a d'autres petits domaines où c'est assez passionnant de se pencher, ce qu'on appelle l'effet de halo. Par exemple, on sait que nos jugements, notre regard sur une personnalité donnée va être très fortement coloré par l'affectivité globale que l'on éprouve vis-à-vis de cette personne. On sait par exemple que quand on décrit les défauts de quelqu'un, si on aime cette personne, on va plutôt limiter ses défauts en disant « bon, c'est quelqu'un qui parfois fait des blagues un peu de potache ». Et si on n'aime pas la personne, on va dire « c'est un gros lourdingue ». C'est-à-dire on généralise les défauts. Inversement, pour les traits positifs, si on n'aime pas la personne, on dit « bon, oui, des fois, elle est aimable, mais c'est un peu quand elle veut obtenir quelque chose », alors que quand on aime, c'est quelqu'un de profondément gentil. Donc, tous ces phénomènes concernent évidemment pas nous, pas les médecins, pas les psychiatres, ni les psychologues, mais le grand public. Le problème, c'est qu'on fonctionne aussi un petit peu comme ça avec nos patients, finalement. À partir de quand va-t-on dire de quelqu'un qu'il est précis et ponctuel ou le considérer comme plutôt de registre obsessionnel, démonstrer ou histrionique, sûr de lui ou narcissique. Un autre sujet de réflexion important par rapport à la pertinence de ce concept de personnalité, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas que la personnalité pour expliquer nos comportements. Il y a aussi quand même deux autres grands facteurs, des facteurs d'environnement et même des facteurs de circonstances. Dans les facteurs d'environnement, je ne me souviens plus si j'ai fait une diapo sur ça, voilà. Dans les facteurs d'environnement, il y a bien sûr des facteurs culturels. On sait que selon la culture dans laquelle vous évoluez, vos traits de personnalité histrionique vont être plus ou moins bien acceptés. Si vous évoluez dans une culture latine, méditerranéenne, vous serez moins rapidement qualifié d'histrionique par votre besoin d'attirer l'attention, de parler fort, d'être reconnu et approuvé par les autres, et beaucoup plus tôt si vous évoluez dans une culture nordique. Il y a aussi des environnements moins culturel et plus lié aux événements de vie, comme ce qui peut se passer au niveau des activations émotionnelles. On sait qu'il y a des traits de personnalité qui vont être activés, qui vont se révéler parce qu'il y aura eu au préalable une activation émotionnelle, comme chez certains patients à vulnérabilité dépressive, certains environnements qui vont pouvoir déclencher la réactivation de leur schéma cognitif dont Bernard Pascal vous parlera cet après-midi. Pareil pour des patients anxieux ou obsessionnels, mais c'est la même chose pour tous les traits de personnalité. Les personnalités narcissiques vont être agacées par le fait que d'autres qu'elles sont en train de recevoir des compliments à leur côté, donc vont commencer à se montrer plus narcissiques qu'elles n'auraient été si on leur avait fichu la paix. Et puis, il y a parfois des tout petits détails qui vont tout faire basculer. Ça, c'est une étude très classique, assez ancienne de psychologie sociale, qui était assez cruelle. On prenait des étudiants en théologie et on les faisait participer à une petite expérience où on leur disait, voilà, vous allez travailler sur le texte du bon samaritain. Donc, vous connaissez la parabole du bon samaritain. C'est un homme qui a été attaqué par des brigands, qui gît sur le bas-côté de la route et qui gémit, qui a besoin d'aide. Et deux hommes passent, donc un homme chargé de fonctions religieuses qui passe et qui ne s'arrête pas pour le secourir, et un autre, un brave bonhomme qui s'arrête, qui prend soin de lui, je crois qu'il l'amène dans une auberge, il lui paie un repas, enfin bref, le bon samaritain. Donc, les étudiants potasse travaillent leur texte dans le but de faire une homélie ensuite, qu'on va enregistrer. On dit, voilà, vous travaillez bien ce texte du bon samaritain, puis vous allez aller dans un petit studio qu'on a quelques rues plus loin, et on va vous enregistrer. C'est bon. Tout le monde, les étudiants sont très contents, ça leur permet d'évaluer un peu leurs compétences. Mais sans leur dire, on sépare ces étudiants en deux groupes. À un groupe, on fiche la paix, on leur dit, ben voilà, le studio est à trois rues, vous avez une demi-heure, allez-y tranquillement. Et à l'autre groupe, on met la pression du temps. On leur dit, attention, on a pris un peu de retard, là, il n'y a plus que 5 minutes, dépêchez-vous, foncez. En chemin, ils sont obligés de passer près d'une porte cochère où un comparse des expérimentateurs s'est couché, est en train de gémir. Comme dans la parabole, quelqu'un qui a besoin d'aide. Et ce dont on s'aperçoit avec horreur, c'est que ces braves séminaristes, qui n'ont pas a priori, ça n'a pas été étudié dans l'étude, mais on peut supposer que, en tout cas, leur taux de trouble de personnalité était à peu près équivalent à celui de la population générale, ces braves séminaristes, déjà, ne s'arrêtent pas beaucoup quand même. Il n'y en a que 40% qui s'arrêtent pour secourir le bonhomme, qu'ils sont obligés d'entendre. On voit bien qu'ils l'entendent, ça a été vérifié, ça, parce qu'ils ont un autre but en tête. Et l'horreur, c'est que ceux à qui on a dit vite, vite, sont seulement 10% à s'arrêter. Donc, méfions-nous de nous-mêmes, méfions-nous de nos certitudes, méfions-nous des valeurs auxquelles nous prétendons adhérer, parce que tout ça peut être facilement bousculé par des petits détails absurdes et qui n'ont pas le poids, enfin qui ont un poids énorme par rapport à ce qu'ils devraient avoir et qui peuvent prendre un poids donc plus important que certains facteurs de notre personnalité. Bon, tous ces bémols posés, la personnalité c'est quand même quelque chose qui compte, d'abord parce que c'est quand même fréquent, ce sont des profils d'humains qu'on rencontre fréquemment dans notre métier de soignant. C'est assez compliqué, les études sur les troubles de personnalité, Julien Guelfi vous rappelait tout à l'heure pourquoi, mais quand même, on sait que dans les demandeurs de soins, il y a un taux assez important, et ils sont surreprésentés dans ces cohortes de demandeurs de soins. C'est important aussi parce que les évolutions sociales, en tout cas dans les sociétés occidentales, font qu'ils semble y avoir une sorte de dérégulation de certains freins éducatifs, sociaux et comportementaux qui font que ces troubles de personnalité, avec l'accent accordé aux droits de l'individu par rapport aux droits du groupe auquel il appartient, ces troubles de personnalité s'expriment peut-être de façon plus spectaculaire et plus violente et moins culpabilisée qu'il ne le faisait autrefois, ce qui entraîne assez souvent un nombre important de gènes sociaux et de difficultés pour cohabiter finalement. On vit dans une société où, à partir du moment où il y a cette dérégulation sur le droit, l'expression des traits de personnalité de chacun, évidemment, ça nécessite qu'on fasse certains efforts de cohabitation. Si on ne réfléchit pas sur les troubles de personnalité, sur la manière dont on peut les penser et agir avec eux, on se trouve de fait ramené à l'usage de classifications implicites. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de classification, on peut gueuler, on peut râler contre les classifications psychiatriques, psychologiques, etc. Le fait est que si ces classifications n'existent pas, on retombe à des classifications primitives, les sympas, les pas sympas, les pénibles, les pas pénibles, et hop, on essaie de mettre tous les pénibles dans le même coin de table pour rester entre pas pénibles. Donc, ce n'est pas forcément mieux. Alors, j'en arrive à ce sujet du seuil normal pathologique. Julien Guelfi vous a parlé tout à l'heure des deux grandes catégories de classification de la personnalité, l'approche catégorielle, donc avec les paranoïaques, les histrioniques, les anxieux, les obsessionnels, on est ou on n'est pas paranoïaque, anxieux, obsessionnel, et puis une autre approche, l'approche dimensionnelle dont je vais reparler. Alors, je vois à vos têtes que vous êtes en train de vous demander pourquoi j'ai choisi d'illustrer avec l'image de gauche cette approche catégorielle. C'est pour une raison simple, cette approche catégorielle pose un problème évidemment de polarisation. Une fois qu'on a mis quelqu'un d'étiquetage, une fois qu'on a mis quelqu'un dans une catégorie, obsessionnel, anxieux, dépressif, tout ce que vous voudrez, on a tendance, lorsqu'on observe le comportement, la personnalité de ce quelqu'un, à toujours aller vers ce qui nous semble le plus intéressant. Et si vous vous souvenez bien, cette publicité, il y a quelques années, le mannequin, c'est de publicité, c'était dans les abribus, à l'arrière des autobus, enfin, c'était fascinant pour tous les mâles qui passaient dans la rue, parce que cette jeune fille disait « Regardez-moi dans les yeux, j'ai dit dans les yeux. » Et évidemment, pour la population mâle, en tout cas, c'était difficile de la regarder dans les yeux. Et c'est un peu pareil, regardez autre chose, que lorsqu'on a des convictions sur quelqu'un, la difficulté de s'extraire de ses convictions pour voir que parfois, la personne ne fonctionne pas systématiquement sur le registre pathologique et catégoriel dans lequel on a voulu la cantonner. L'approche dimensionnelle, donc, qui dit qu'au fond, il y a un continuum entre normal et pathologique et qu'en nous peuvent coexister tout un tas de traits à des degrés divers selon les moments, évidemment plus fines et plus intéressantes, plus compliquées à manier aussi en clinique, mais c'est en tout cas celle-ci que j'utiliserai pour ma petite démonstration qui va suivre, en faisant un mix d'ailleurs, ce que tu disais Julien tout à l'heure, hein, on peut prendre l'approche catégorielle avec laquelle nous sommes familiarisés en psychiatrie et la décliner de manière dimensionnelle, dire chacun de nous un gradient potentiel de paranoïa, d'obsessionnalité, d'histrionisme, de narcissisme. Les critères concernant le seuil entre personnalité normale et personnalité pathologique, il y a des critères descriptifs que vous avez sur le haut de la diapositive. Donc, c'est l'intensité de la détresse émotionnelle dans les situations starter. On parlait de la souffrance du narcissique lorsque d'autres que lui sont félicités. Celle de l'obsessionnel, je parlais tout à l'heure, avec toi, avec Fabrice Cholan, sur le... Vous voyez les trois panneaux là sur l'estrade, le quorum. Vous voyez, il y a trois panneaux, le quorum. Celui du milieu est légèrement décalé vers la droite. Et tout à l'heure, il y avait aussi celui de gauche qui était décalé. Et je le disais à Fabrice, ce truc me dérange, ça active mon logiciel obsessionnel. Et très gentiment, voilà, il a remis. Et je me suis senti un petit peu mieux. Voilà, problème d'activation émotionnelle. Ma détresse n'était pas si grande que je n'ai pas pu écouter les deux orateurs précédents, mais quand même, elle était.